Vous écoutez, on lit pour vous.
Tous inégaux face à l'endettement, un texte de Clémence Pavic, paru le 13 décembre 2024 dans Le Devoir. La dette n'est pas toujours un problème. En fait, elle peut même être un levier d'enrichissement et exacerber les écarts entre les moins nantis et les plus fortunés, souligne l'Observatoire québécois des inégalités dans une nouvelle note de recherche publiée le jeudi 12 décembre 2024. Souvent, l'endettement a mauvaise presse, souligne d'emblée l'auteur de l'étude Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, en entrevue au Devoir. Ça peut effectivement être un problème lorsqu'il y a des problèmes de remboursement. Mais l'endettement est aussi un levier d'avancement socio-économique pour un grand nombre de familles au Québec et au Canada, mentionne l'expert. Au Canada, l'endettement moyen des ménages en proportion du revenu disponible a doublé depuis les 30 dernières années. En 1990, ce taux s'élevait à 88 % selon les données de Statistique Canada. Au dernier trimestre de 2024, il s'élevait à 177 %. En d'autres mots, pour chaque dollar de revenu après impôt, les ménages canadiens doivent aujourd'hui 1,77 $, alors qu'ils ne devaient que 88 sous autrefois. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu une dégradation de la situation financière de l'ensemble des ménages, comme l'explique M. Boucher. Pour illustrer son raisonnement, l'économiste s'est penché sur la dette détenue par les différents groupes de revenus et l'enrichissement dont ceux-ci ont profité ces dernières années. Ainsi, on remarque que le premier quintile de la population canadienne, les 20 % de ménages les plus pauvres, possède seulement 4 % de toute la dette au pays. Le cinquième quintile, les 20 % de ménages les plus riches, en possèdent quant à eux 37 %. Un exemple pour comprendre ce qui, de prime abord, peut paraître contre-intuitif, une personne à faible revenu qui a du mal à rembourser une marge de crédit de 20 000 $ demeure moins endettée qu'un riche investisseur immobilier qui cumule des centaines de milliers de dettes, mais en tire des revenus en contrepartie. M. Boucher montre que si les plus fortunés sont les plus endettés, ce sont aussi eux qui se sont le plus enrichis au fil du temps. Entre 1999 et 2023, l'actif total au Québec a grimpé de près de 2 200 milliards $. De cette richesse créée, quelle proportion est allée aux plus pauvres? Seulement 1 %. Et aux plus riches? Environ 59 %. Inégaux face à l'accès au crédit. Le problème, c'est que certaines catégories de personnes, notamment les personnes à plus faible revenu ou les personnes racisées, ont moins accès au crédit et cela peut se traduire par une accentuation des inégalités de richesse, explique M. Boucher. L'économiste note que les institutions financières exercent un large pouvoir d'inclusion et d'exclusion des emprunteurs potentiels. Les clients considérés comme les plus à risque peuvent soit se faire barrer d'accès au crédit, soit y avoir accès, mais moyennant des taux d'intérêt plus élevés, fait valoir M. Boucher. Les institutions financières ne sont pas à l'abri des préjugés et de la discrimination, ajoute-t-il, citant pour appuyer ses propos une étude sur le surendettement au Québec de Maude Pugliese, professeur à l'Institut national de la recherche scientifique. L'étude en question met notamment en lumière que les personnes racisées et les personnes autochtones sont plus souvent perçues par les prêteurs comme posant un risque de non-remboursement. Évidemment, la dette est aussi une arme à double tranchant, conclut M. Boucher. Elle peut se transformer en un fardeau quand l'emprunteur perd son emploi ou que le contexte économique se dégrade. Il n'en demeure pas moins que ça reste un levier d'enrichissement important, dit-il. C'était Tous inégaux face à l'endettement, un texte de Clémence Pavic paru le 13 décembre 2024 dans Le Devoir.
Conrad Sioui raconte « L'autre côté de la médaille, des luttes autochtones », un texte de Simon Filiatro paru le 11 décembre 2024 dans Espaces autochtones. Du haut de sa longue carrière politique, le diplomate Huron Wendat a pris la plume pour faire découvrir, redécouvrir de l'intérieur au public les combats des peuples autochtones au cours des dernières décennies. Intitulé « La traversée des quatre cercles, les chemins de sagesse d'un grand chef Huron Wendat », le mémoire de Conrad Sioui suit une structure circulaire plus fidèle au système de pensée autochtone. De la Cour suprême aux Nations unies, en passant par la crise d'Oka et les conférences constitutionnelles, Conrad Sioui a été sur tous les fronts pour la défense des droits des peuples autochtones. Son autobiographie, parue en octobre dernier, plonge le lecteur dans les coulisses de sa carrière politique effrénée, révélant ainsi la face cachée de l'histoire. L'ancien grand chef de la nation Huron-Wendat jugeait opportun de dévoiler enfin au grand public l'autre côté de la médaille, son parcours étant étroitement lié aux combats menés par les Autochtones ces dernières décennies. Il s'agit selon lui d'une nécessité, considérant l'ingérence des spécialistes des Premières Nations, ces bêtes noires qui nous étudient sans nous demander notre opinion. Citation. « Je parle pour moi-même cette fois-ci et je plaide moi-même ma cause. Il n'y aura donc pas d'exercice de définition de notre histoire, de nos récits et de nos traditions orales, s'appuyant sur des interprètes qui voudront parler à notre place en affirmant « Ils veulent dire ceci ou cela ». Fin de citation. Extrait de « La traversée des quatre cercles, les chemins de sagesse d'un grand chef Huron-Wendat ». Ce désir de parler à la première personne tire sa source d'une discussion qu'il a eue avec son père au retour de sa première journée à l'école fédérale de jour réservée aux Hurons-Wendat. Le jeune Conrad Sioui l'a questionné sur la cruauté commise par leurs ancêtres à l'endroit des Jésuites, mais ce dernier a catégoriquement nié ces faits, tout en incitant ses enfants à prendre la plume pour écrire notre histoire. De cette discussion a germé une graine dans l'esprit de Conrad Sioui, qui le mènera dans une multitude d'arènes avec comme arme de prédilection la diplomatie et le respect, fidèlement aux traditions Wendat. Si les deux premières parties de ses mémoires font le récit de son enfance et de son adolescence aux côtés de sa grande famille, le reste de l'ouvrage dévoile les pans de sa lutte pour une reconnaissance accrue des droits de sa nation et de l'ensemble des peuples autochtones sur l'île de la Tortue. Les Sioui contre la reine. Parmi ces combats figure celui de la reconnaissance des droits de la nation Huron-Wendat sur leur territoire ancestral, le Nyonwentsio. Depuis la création unilatérale par le gouvernement du Québec de la réserve faunique des Laurentides en 1895, plusieurs familles ont fait l'objet de harcèlement des agents de la faune. Citation. Lorsque nous partions le dimanche, nous savions que nos tentes seraient déchirées et que les pôles de bois qui les retenaient seraient coupés en petits bouts. Durant toute cette période, nous avons vu disparaître nos canots, nos vêtements, nos outils, nos agrès de pêche, les jouets des petits. Tous disparus, saisis par les gardiens de la forêt. Fin de citation. Extrait de « La traversée des quatre cercles, les chemins de sagesse d'un grand chef Huron-Wendat ». Un bon dimanche, les gardes forestiers, surnommés les Bruns par l'auteur, ont fait irruption dans deux camps familiaux du clan de Conrad Sioui. Armés et prêts à en découdre, ils les ont sommés de quitter le parc de conservation sous peine d'être escortés manu militari, selon l'homme politique Wendat. Ayant refusé d'obtempérer, quatre des frères Sioui se sont vus convoqués à la cour 2 ans plus tard, alors que des accusations formelles pesaient contre eux. Devant cette injustice, les maires du clan Sioui ont insisté pour qu'ils se défendent coûte que coûte. Contre les prétentions du gouvernement du Québec que le territoire du Nyonwentsio devait être historiquement considéré comme inoccupé, conformément à la théorie dite de la découverte, le clan Sioui faisait valoir le traité Huron-Britannique de 1760. Ce document signé entre le général James Murray et les Huron-Wendat, garantissait à ces derniers le droit d'exercer librement leur religion, leurs coutumes et la liberté de commerce sur le territoire qui comprenait à ce moment ce qui deviendra la réserve faunique des Laurentides. Cette saga judiciaire décennale s'est ultimement frayée un chemin jusqu'à la Cour suprême du Canada, où, en 1990, un banc de 9 juges a penché en faveur des accusés, et ce, à l'unanimité. Près de 35 ans plus tard, Conrad Siwi refuse de s'asseoir sur ses lauriers. Récemment, lors d'un passage à une émission radio, l'animatrice a remis en question la validité du traité. Citation. « J'ai compris que c'était encore dans les mœurs, cette idée qu'il ne faut pas que ce soit un traité, qu'il faut que ce soit un vulgaire petit torchon. » Fin de citation, se désole l'ex-grand-chef Huron-Wendat. C'est pourquoi il incite les prochaines générations à ne jamais verser dans la complaisance, les droits des peuples autochtones n'étant jamais réellement acquis, même en présence d'un traité ou d'un jugement. Parler la langue du colonisateur. Un autre précieux conseil de son père était la suite logique du premier, gravir les échelons scolaires afin que les négociations intergouvernementales s'effectuent sur un pied d'égalité. Cette notion a pris tout son sens pour Conrad Siwi au début des années 1980. Il a alors constaté qu'Ottawa et les provinces faisaient alors la sourde oreille aux revendications autochtones sous prétexte qu'elles tombaient dans la cour juridictionnelle de l'autre ordre gouvernemental. Citation. Pour la fonction publique québécoise, le message passe-partout était que les Indiens étaient une responsabilité exclusivement fédérale. Ellipse. Cependant, lorsque nous nous adressions aux fonctionnaires fédéraux, ils nous répondaient que telle compétence relevait plutôt du gouvernement du Québec selon la Constitution canadienne. Ce n'était ni plus ni moins qu'un jeu de ping-pong, et nous étions la balle entre les deux. Fin de citation. Extrait de La traversée des quatre cercles, les chemins de sagesse d'un grand chef Huron-Wendat. C'est ainsi qu'il a effectué un retour aux études à l'École nationale d'administration publique. Une fois sa maîtrise complétée en 1984, M. Siwi a ensuite été élu comme vice-grand-chef, une fonction qu'il a exercée jusqu'en 1987 avec assurance et autorité. Sa soif de connaissance pour la défense des intérêts autochtones n'était pas rassasiée pour autant. Encouragé par son frère, l'historien Georges Siwi, Conrad Siwi a ensuite entamé en 2004 un doctorat en sciences politiques à l'Université Laval, un projet interrompu par son élection comme grand chef de la nation Huron-Wendat de 2008 à 2020. Sa thèse, dont la rédaction se poursuit aujourd'hui, porte sur les enjeux de citoyenneté des Premières Nations, un sujet toujours d'actualité. Les administrateurs du registre des Indiens agissent encore comme la seule autorité habilitée à accorder le statut d'Indien, une pratique coloniale ayant pour finalité une assimilation totale, selon le doctorant. Un diplomate rassembleur. Outre sa nature revendicatrice et ses aptitudes de gestionnaire, Conrad Siwi a aussi su rassembler les Premières Nations dans un contexte de division qui favorisait un statu quo préjudiciable à celles-ci. Depuis la dissolution de l'Association des Indiens du Québec en 1977, l'isolement des nations dans la province devenait la norme. Pour preuve, les Cris ont signé la Convention de la baie James et du Nord québécois peu avant. Les Innus et les Atikameks, de leur côté, unissaient leurs forces en créant le Conseil Atikamekw-Montagnais dans l'espoir de conclure leur propre traité moderne. Or, lors de son élection en 1985 comme représentant du Québec à l'Assemblée des Premières Nations, APN, l'heure était au rassemblement. Il se tenait en effet des conférences constitutionnelles dont l'objectif était d'enchâsser les droits des peuples autochtones dans la Constitution canadienne, rapatriés 3 ans plus tôt sans l'apport de ceux-ci. Conrad Siwi n'a donc pas tardé à réaliser son premier mandat. Mettre sur pied une nouvelle instance qui permettrait aux Premières Nations du Québec de parler d'une seule et même voix. Les communautés au Québec et 2 communautés Innu au Labrador ont donc uni leurs forces pour créer en 1985 l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, APNQL. N'empêche, les pourparlers constitutionnels ont fait chou blanc. Le nerf de la guerre résidait dans la définition des droits autochtones, désormais reconnus abstraitement dans la nouvelle Constitution. Ces échecs étaient lourds de conséquences, alors que les nations autochtones devaient désormais se résigner à se tourner vers les tribunaux, un processus long, coûteux et hasardeux. Sinon, son travail d'unification s'est aussi étendu à l'échelle internationale. À titre de responsable des affaires internationales pour l'APN, M. Siwi a pris part à l'orée des années 90 à de nombreuses missions de l'ONU chargées de recenser les atrocités commises à l'endroit des peuples autochtones au sein des États-nations membres. La délégation canadienne ne pouvait d'ailleurs pas être comptée au nombre des alliés, bien au contraire. Le Canada compte parmi l'un des quatre derniers pays au monde à avoir ratifié la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Plus encore, l'administration de Jean Chrétien a travaillé activement pour réduire la portée de ce document international au début des années 2000. Une raison de plus pour les peuples autochtones, selon Conrad Siwi, de ne jamais prendre pour acquis les gains au Canada. C'était Conrad Siwi raconte l'autre côté de la médaille des luttes autochtones. Un texte de Simon Filiatro, paru le 11 décembre 2024 dans Espaces autochtones. Vous écoutez Conrad Siwi raconte l'autre côté de la médaille des luttes autochtones. Un texte de Simon Filiatro, paru le 11 décembre 2024 dans Espaces autochtones.
Quel est le meilleur saumon pour l'environnement? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 20 décembre 2024 dans la presse. Il n'y a pas de réponse parfaite. Les deux ont de l'impact, lance d'emblée Olivier Morissette, professeur en biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Qu'il s'agisse de la pêche ou de l'élevage, en mer ou sur terre, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Saumon sauvage. Le saumon sauvage présente l'avantage d'être moins coûteux que le poisson d'élevage et d'éviter les enjeux liés à l'élevage en captivité. Il peut être bénéfique d'un point de vue environnemental, mais sa durabilité dépend de la manière dont il est pêché et notamment des quotas de pêche fixés par les gouvernements, mais aussi de la santé de ses écosystèmes. En particulier, certaines espèces de saumon, comme le chinook, sont particulièrement en danger, rappelle Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. 8 Canadiens sur 10 mangent du saumon. 1 sur 10 en mange chaque semaine, selon une enquête menée par l'Université Dalhousie, publiée en 2021. Le lieu où il est pêché peut aussi jouer. Si c'est en pleine mer, cela nécessite plus de carburant pour les bateaux. Mais si c'est à l'entrée des rivières, cela peut être problématique pour l'espèce si les saumons pêchés étaient, par exemple, sur le point de pondre, souligne Catherine Houssard, analyste au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG. Saumon d'élevage en mer. La façon la plus simple et la moins coûteuse de produire du saumon d'élevage, c'est d'élever les poissons dans un filet, dans l'océan, près des terres, souligne Sylvain Charlebois. C'est ce qu'on appelle de l'élevage en mer. Le problème avec cette méthode est que les grandes concentrations de matières organiques, nourriture, excréments, au même endroit, peuvent causer de l'eutrophisation. L'excès de nutriments dans l'eau peut déséquilibrer les écosystèmes alentour. Les saumons vivent aussi très près les uns des autres, ce qui peut favoriser la transmission de parasites et de maladies et nécessiter d'avoir recours à des antibiotiques. Et il peut arriver que certains poissons s'échappent et entrent en compétition avec les espèces sauvages qui vivent aux alentours, ce qui peut, là encore, entraîner un certain déséquilibre. Saumon d'élevage sur terre. Dans l'élevage sur terre, les saumons sont gardés dans de grands bassins artificiels qui fonctionnent en circuit fermé.
L'avantage de cette méthode est que les saumons vivent dans un environnement contrôlé et ne perturbent pas les écosystèmes alentour. Mais cela nécessite l'utilisation d'importantes ressources et en particulier d'une grande quantité d'eau douce et de grands espaces sur Terre. En tout, 49% des Canadiens préfèrent le saumon sauvage au saumon d'élevage. 42% n'ont pas de préférence, selon une enquête menée par l'Université Dalhousie publiée en 2021. Que ce soit en mer ou sur terre, les saumons étant des prédateurs, leur alimentation est surtout basée sur de la farine d'autres poissons dont l'impact doit, lui aussi, être pris en compte. Verdict : l'un dans l'autre. Les experts s'accordent à dire qu'il n'y a pas de solution idéale. Ce n'est vraiment pas évident à trancher, indique Catherine Houssard. Une récente analyse de cycle de vie réalisée en 2023 montre que le saumon sauvage serait préférable si on le compare au saumon d'élevage sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème et que les stocks actuels de saumon sauvage ne sont pas suffisants pour répondre à la demande des consommateurs, souligne Olivier Morissette, rappelant au passage que le saumon est, de loin, le poisson le plus consommé à l'échelle du Canada. La bonne nouvelle, c'est que les pratiques d'élevage s'améliorent de plus en plus, réduisant ainsi l'incidence environnementale de leur production, souligne Sylvain Charlebois. Des poissons élevés au Canada, avec une alimentation basée sur des produits de rechange comme du soya ou des protéines d'insectes, pourrait être une solution d'avenir, avance Catherine Houssard. En attendant, mieux vaut, selon elle, éviter les saumons frais et transportés par avion pour limiter l'empreinte liée au transport et aux pertes. Le saumon fumé congelé reste un meilleur choix que le Gravlax, qui est fait avec du saumon frais, illustre-t-elle. Mais finalement, la meilleure solution pourrait être de se tourner vers d'autres poissons, comme les maquereaux ou les sardines, qui, eux, donnent moins de fil à retordre en matière d'impact environnementaux. C'était « Quel est le meilleur saumon pour l'environnement ?», un texte de Chloé Bourquin, paru le 20 décembre 2024 dans La Presse.
Enfants et chiens, quatre trucs pour une cohabitation heureuse, un texte commandité, paru le 15 décembre 2024 dans La Presse. Partenaire de jeu, meilleur ami, grand confident, lorsqu'il devient le compagnon de votre enfant, le chien peut jouer un rôle significatif dans son développement social, affectif et même moteur. Quelques astuces pour tirer le meilleur de cette relation toute spéciale. Apprendre à votre enfant comment se comporter avec un chien. On a beau le traiter de gros toutou, le chien de la famille reste un animal. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, les enfants de la maisonnée doivent apprendre à interagir de façon sécuritaire avec leur compagnon canin. Plusieurs comportements peuvent provoquer une réaction hostile, même chez un animal doux comme un agneau. Monter sur le chien, lui tirer la queue ou les oreilles, le réveiller brusquement, le déranger pendant qu'il mange, lui voler le jouet qu'il a dans la gueule, etc. Tous les membres de la famille devraient aussi savoir décoder le langage canin afin de détecter les avertissements que lance un chien stressé ou anxieux avant de mordre. Et si mon enfant a peur des chiens? Apprendre à approcher les chiens sécuritairement peut également aider un enfant qui les craint à vivre des rencontres positives. Enseignez à votre enfant les règles de sécurité à observer lorsqu'il croise un chien, qu'il le connaisse ou non. Voici quelques incontournables. Demandez la permission au propriétaire avant d'aller vers l'animal. Évitez le contact visuel direct avec un chien. Le laisser venir vers soi pour lui faire sentir sa main et, finalement, si l'animal se montre réceptif, le caresser doucement sous le menton, jamais sur la tête. en apprenant à votre enfant à respecter le rythme du chien, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que sa peur des bêtes s'estompe graduellement. S'occuper d'un animal de compagnie. En plus de favoriser plusieurs sphères du développement chez l'enfant, avoir un animal de compagnie permet aux jeunes maîtres de cultiver leur sens des responsabilités. Dès l'âge de 5 ans, sous supervision parentale, l'enfant peut jouer un rôle de plus en plus important dans les soins à apporter à Pitou. Il pourra, par exemple, le nourrir, veiller à ce qu'il ait de l'eau fraîche, le brosser ou le promener. Vous n'avez pas encore de chien, mais votre enfant vous assure que si vous en accueillez un, il s'en occupera seul, promis, juré, craché. L'adoption d'un animal domestique est une responsabilité à long terme pour toute la famille. Faites participer votre coco à la réflexion pour qu'il ait une idée réaliste de ce que représente cet engagement. Préparez un chien à la naissance de bébé. L'arrivée d'un nouveau-né est un changement important pour toute la famille et les bêtes qui vivent sous votre toit n'y font pas exception. Pour préparer votre chien à cette nouvelle cohabitation, instaurez déjà la routine et les règles familiales qui prévaudront après la naissance. Vous pouvez habituer Toutou aux promenades en poussette et au parc du quartier pour qu'il apprivoise le niveau de bruit et d'excitation que produisent les petits humains. Vous pouvez établir dès maintenant vos limites quant à l'accès à la chambre de bébé. Votre chien a un tempérament réactif ou se montre particulièrement possessif? Envisagez de travailler avec un éducateur canin pour enrayer les mauvais comportements et miser sur les bons. Pitou, quel bienfait pour la santé! Vous craignez les bactéries et les microbes qu'un chien pourrait transporter chez vous? Dormez tranquille. De nombreuses études ont démontré que le contact avec les animaux de compagnie contribue à bâtir la défense immunitaire des tout-petits. Particulièrement utile à ce chapitre, les chiens portent des micro-organismes qui aident à réduire les infections respiratoires, les allergies et l'eczéma, entre autres maux. Évidemment, à ces bénéfices pour la santé s'ajoutent tous les bienfaits thérapeutiques qu'un compagnon à quatre pattes procure aux membres de la famille. C'était Enfants et chiens, quatre trucs pour une cohabitation heureuse, un texte commandité, paru le 15 décembre 2024 dans la presse.